Tout à l'heure, lorsqu'on chantait le chant, ça me rappelait lorsqu'on était à Together for the Gospel. On était à peu près 8000 personnes, 6000 hommes peut-être, là, j'y vais comme ça, là, mais écoutez, dans un stade, là, c'était extraordinaire de chanter ça. J'ai demandé à Alex qu'on termine le service ce matin en reprenant ce chant-là. On va le chanter en anglais, il est assez simple à suivre. Faites-moi entendre vos voix tout à l'heure, juste pour me ramener là-bas. C'est vraiment un avant-goût du ciel. Quand tu vas dans ces conférences-là, puis tu as la chance d'entendre comme 5, 6, 7, 8 000 personnes chanter en même temps. Souvent, quand c'est des hommes, ça tonne, là. Ah, c'est majestueux, c'est extraordinaire. On va aller ensemble dans un mot de prière. Vous pouvez tourner tout de suite dans Acte 9. Et avant de lire le passage, on va se courber ensemble dans un mot de prière. Alors, Acte 9, et puis on va prier. OK, on va prier. Mais Père éternel, on vient dans ta présence ce matin parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous l'avons dit, Seigneur, par le repas, ce mémorial qu'on vient de prendre ensemble pour se rappeler, Seigneur Jésus, de ce que tu as fait à la croix pour nous. Et Seigneur, c'est dire combien nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi quotidiennement, Père. Nous avons besoin de la vie qui insuffle en nous ton esprit, Seigneur, pour ranimer nos âmes qui s'abattent si facilement, qui ralentissent leur course si vite, pour secouer, Seigneur, de notre vie tout péché qui veut s'installer, toute idole qui voudrait s'incruster, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour vivre une joie entière. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Seigneur, nous avons besoin de toi, car c'est en toi que se trouve cette joie qui nous permet de traverser les épreuves de la vie en gardant le cap, en gardant les yeux fixés sur cette destinée éternelle que nous avons avec toi. Seigneur, je te prie de te manifester ce matin dans nos cœurs, premièrement. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu viens de te manifester dans nos cœurs en rendant cette parole qui est ta parole, Seigneur, vivante. Qu'elle soit vie, Seigneur, pour nous. Et viens produire en nous, Seigneur, ce fruit de l'Esprit. Viens produire en nous, Seigneur, toutes sortes de bonnes dispositions. Toutes sortes de repentances nécessaires, Seigneur. Toutes sortes de bons sentiments, Seigneur, à ton égard et à l'égard des hommes qui nous entourent. Afin, Seigneur, que ces prédications, que ces temps de louanges se manifestent quotidiennement dans nos vies. Père, nous te prions parce que c'est toi qui donnes la vie. Et je te prie pour ceux d'entre nous qui se sentent comme un désert aride, sentent leur âme desséchée, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie. Viens, Seigneur, et déverse ces ondées. Manifeste-toi, Esprit Saint. Et là où nous t'avons attristé, montre-le-nous, Seigneur, pour que nous soyons repentants et que nous puissions marcher remplis de ton Esprit Saint. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias! » Il répondit, « Me voici, Seigneur! » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va. » Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quelle conversion extraordinaire, non? Le persécuteur qui se convertit, c'est une conversion comme on voudrait en voir tout le temps. C'est une conversion extraordinaire par la révélation de Jésus. C'est exceptionnel, on s'entend, la majorité des chrétiens se convertissent pas. Les gens se convertissent pas à la foi chrétienne par une apparition de Jésus-Christ. Mais dans son cas, quelle conversion absolument extraordinaire. Et quel virement, quel changement de cap dans la vie de cet homme-là. Et je pense que sa conversion est probablement une des conversions les plus significatives dans toute l'histoire de l'Église. Cet homme-là est appelé à une destinée extraordinaire aussi. À la mesure de ce moment-là où il rencontre Jésus, sa destinée est extraordinaire. La conversion de Saul de Tarse, qui est appelé à devenir bientôt Paul l'apôtre, est une des conversions qui a marqué le plus toute l'histoire du christianisme. Alors, je pense que c'est une conversion extraordinaire, pas tellement parce qu'il s'agit de la conversion d'un persécuteur qui va devenir lui-même un persécuté pour le nom de Jésus-Christ. 2000 ans d'histoire d'Église nous a donné des centaines, voire peut-être des milliers de persécuteurs qui se sont convertis. Je vous ai parlé dans les dernières semaines de Richard von Braun. Je suis en train encore de continuer à faire la lecture de son petit livre, L'Église torturée. Et lui-même, dans ce récit-là, je disais ça encore hier, nous parle de bourreaux, de gens qui étaient là et qui torturaient des chrétiens et qui se sont éventuellement convertis. Il nous parle même d'un d'entre eux qui l'a retrouvé en prison comme prisonnier à cause de Christ. Alors, l'histoire de l'Église compte des centaines, voire des milliers de personnes qui ont combattu le christianisme agressivement. Je ne parle pas de personnes qui n'étaient pas ouvertes à l'Évangile. Je parle de gens qui voulaient faire du mal à des chrétiens et que Dieu est allé rencontrer, qui se sont convertis. Mais dans le cas de Paul, ce qui est particulier, c'est davantage son appel, le rôle qu'il est appelé à jouer. Parce que cet homme-là, comme le dit déjà Jésus au moment même de sa conversion, est appelé à porter le nom de Jésus-Christ devant des nations, devant des rois. Il va témoigner de Jésus-Christ devant des rois. Il va implanter un grand nombre d'églises. Et donc, il est important dans l'histoire de l'Église, tant par sa vie que par ses écrits. Les écrits de l'apôtre Paul composent une grande partie du Nouveau Testament. Et en fait, une bonne partie de notre compréhension de l'Évangile repose sur la théologie de l'apôtre Paul. Enlever les écrits de Paul du Nouveau Testament, et il y a vraiment des aspects très importants de notre compréhension de l'Évangile dans toute sa beauté, sa majesté qui nous manquerait. Cet homme-là était appelé à une destinée extraordinaire, exceptionnelle, et Dieu lui a donné des circonstances de conversion extraordinaires aussi. Et j'aimerais dire un mot sur ça parce que on est dans le livre des Actes et il y a beaucoup de manifestations surnaturelles de Dieu. Et encore dans ce cas-ci, je me disais, j'étais en train d'étudier cette semaine, puis je me disais, il va y avoir des gens qui vont être là en train de m'écouter puis qui vont se dire, c'est gros, tu sais, c'est gros à avaler tout ça, Jésus qui apparaît. Alors peut-être que vous luttez avec un certain scepticisme ou peut-être que vous êtes franchement sceptique à cet égard-là. Et c'est vrai que c'est énorme. Il y en a plein dans les Actes. Il y a une concentration d'événements surnaturels. C'est vrai. Maintenant, à la défense des Écritures, je vous dirais que c'est difficile d'expliquer le bouleversement de vie qui s'opère chez l'apôtre Paul. Oubliez un instant l'apparition de Jésus. Mais considérez la vie de cet homme-là qui était un homme violent. C'était un fanatique, d'accord? Parce qu'il poursuivait agressivement et voulait voir mis à mort, sinon le faire lui-même, toutes les personnes qui s'associaient à Jésus. Et de voir cet homme-là qui va complètement changer son capot de base, si je peux dire, et qui va devenir lui-même un chrétien. Non seulement il va devenir un chrétien, mais il va devenir un pacifiste. Parce qu'il va lui-même se laisser battre à de nombreuses reprises à cause du nom de Jésus-Christ. Il va abandonner toute sa notoriété, son statut. Nous, on parle de l'apôtre Paul, puis on dit « Wow, l'apôtre Paul! » Attendez un peu. À cette époque-là, l'apôtre Paul, c'était un enseignant parmi une petite secte qu'on pensait être une secte juive. C'était comme ça que le christianisme était perçu. Nous, on vit 2000 ans après. Alors, voyez-vous, les bouleversements de vie qu'il y a dans la vie de cet individu-là sont difficiles à comprendre s'il n'y a pas eu une intervention divine dans sa vie. Imaginez un instant, s'il était encore vivant, qu'Oussama Ben Laden se convertisse et devienne chrétien. Et non seulement devienne chrétien, mais devienne pacifiste. Et qu'il accepte d'être maltraité pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je veux dire, tout le monde se dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? Il pourrait écrire des biographies, là. Je vous dis, ça se vendrait, cette affaire-là. Tout le monde voudrait connaître son secret. Mais le secret de Paul, c'est Jésus-Christ. Alors, je sais que c'est difficile à voir, c'est difficile à croire, cette manifestation-là. En même temps, pour tous ceux qui sont chrétiens ici, on pourrait tous témoigner et vous partagez des moments dans notre vie ou des moments dans notre vie de prière ou certains d'entre nous à notre conversion où clairement nous avons vu Dieu intervenir. Et je comprends que c'est des choses difficiles à croire par moments, mais je l'ai vu personnellement. J'ai vu Dieu répondre à certaines de mes prières d'une manière extraordinaire et j'explique mal ma propre conversion. C'est pas parce que j'ai été élevé là-dedans. Il y avait tellement d'autres options qui m'étaient offertes dans ma maison que ça. Cette vie-là qui est tellement exceptionnelle est une belle défense à l'égard d'un miracle aussi grand que celui-là. Ce récit-là nous parle de Paul, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais lorsque je l'ai lu, rapidement, pour moi, Paul n'est pas apparu comme le personnage principal du récit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, il y a un autre personnage qui est beaucoup plus important dans ce récit-là, et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que c'est exceptionnel comme conversion, voyez-vous. Généralement, lorsque des gens se convertissent, deviennent chrétiens, bien ils entendent un chrétien leur annoncer l'Évangile. La majorité des conversions dans le livre des Actes se passent comme ça. Ce sont des disciples de Jésus-Christ qui annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Des gens décident de croire. Et oui, il y a une intervention surnaturelle parce qu'une nouvelle naissance spirituelle, c'est une intervention surnaturelle, mais c'est pas de là à ce que Jésus dise correct. On va prendre un rendez-vous, toi puis moi. Et donc, il y a quelque chose d'exceptionnel à cet endroit-là. Et Jésus m'apparaît comme le personnage principal dans ce récit-là. Alors, ce matin, j'aimerais ça vous résumer comme ça les éléments que je vais faire ressortir brièvement du texte. Jésus-Christ est tout-puissant et infiniment gracieux pour sauver les plus rebelles. En retour, ce qu'il demande à l'Église, parce que à l'arrière-scène dans le texte, on a l'Église qui est là constamment, Paul qui entre dans l'Église, mais le reste de l'Église qui intervient énormément. En retour, ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire dans sa puissance. Il nous demande d'annoncer l'Évangile. Il nous demande aussi d'accepter de souffrir pour son nom. Il nous demande d'accueillir ceux qu'il sauve en son nom. Parce que ça a pris la foi pour pouvoir aller vers cet homme-là. Ça a pris la foi à Ananias, ça l'a pris à Barnabas. Parce que Jésus est avec nous et il est tout près de nous. Alors, je résume ça en trois points ce matin. Jésus est tout-puissant et infiniment gracieux. Deuxièmement, Jésus est avec nous, il est intimement lié à son Église. Et troisièmement, l'appel de l'Église, croire, porter son nom, souffrir, accueillir. C'est l'appel qui est sur notre vie. Premièrement, Jésus est tout-puissant pour sauver les rebelles. Christ n'avait pas besoin de Paul. Il y avait des gens plus honorables qui auraient pu porter le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux dire, il ne lui devait rien sinon d'être frappé. Paul s'acharnait avec violence à poursuivre les chrétiens. C'était un homme profondément rebelle. Pourquoi est-ce que je dis qu'il était rebelle? Il avait entendu l'Évangile. Rappelez-vous, Paul est là lorsque au meurtre d'Étienne. Et donc, il a entendu l'Évangile. Paul, c'est tout près de la mort et de la résurrection de Jésus. Paul a entendu, Saul, je m'excuse, depuis tantôt je l'appelle Paul, il va s'appeler Saul plus tard. Il a entendu tout le récit de ce qui s'est passé avec Jésus. Mais il est rebelle et Dieu, dans sa grâce, décide de venir le sauver. Le Seigneur Jésus est puissant pour aller chercher des rebelles. Et je le sais, cette semaine, j'étais en train de me préparer et je me disais, il y a des mères dans la salle, mais ce n'est pas juste des mères, mais il y a des mères dans la salle qui vont se dire, « Seigneur Jésus, viens te manifester comme ça à mes enfants. » Ah, ils vont se convertir si tu fais ça. Regarde, Paul a plié les genoux, il est tombé au sol, il s'est donné. Si tu pouvais apparaître comme ça. Il y avait une destinée particulière aussi. Votre enfant n'est peut-être pas destiné à subir et à faire ce que Paul était appelé à faire. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, est puissant pour sauver des rebelles. Et on en a eu ici à l'Église qui sont venus donner leur témoignage. Pensez à Tony Anthony. Lisez sa biographie si vous ne l'avez pas lue. Pensez à Kim Fook, avec tout ce qu'elle avait souffert, de pouvoir accueillir le pardon de Dieu pour sa propre vie et pouvoir après ça le donner. Je parle de cette petite fille, vous savez, avec la guerre du Vietnam, tout ça, qui est sur cette image. Cette femme-là est chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'est vraiment une conversion extraordinaire. Ceux qui ont connu Jan Gazdick, qui a implanté l'église de Chauveau à Québec. C'est un récit de conversion extraordinaire où Dieu va chercher des gens qui ne voulaient pas venir et croire en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est tout-puissant pour sauver des rebelles. Il est tout-puissant pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a toute une ironie dans la conversion de Paul, parce que Paul était un aveugle qui conduisait des aveugles. Paul était aveuglé par sa folie, plus capable d'entendre les prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissaient dans la personne de Jésus, incapable de voir tout ça. Le moment que les Juifs attendaient depuis toujours se réalise devant ses yeux, il n'est pas capable de saisir ce qui est en train de se produire parce qu'il est aveuglé par sa religiosité à travers tout ça, je ne sais pas. Mais il est aveuglé. Et au moment de sa conversion, Christ lui apparaît dans une lumière tellement grande qu'il est physiquement aveuglé. Et il y a vraiment une belle métaphore ici. Alors, je sais pas dans notre entourage qui sont les gens qui, dans notre esprit, sont hors de portée. Vous savez, hein, on fait ces évaluations-là. On a comme une espèce de radar, puis après quelques années de vie chrétienne, tu témoignes 3-4 fois, puis il y a un radar qui s'installe dans ton cœur. Tu t'essayes. Puis là, quand tu approches quelqu'un, tu veux parler avec, tu les évalues, je m'en ai dit, tu les gages, tu sais, tu as ton radar, puis ceux-là sont à la portée de Jésus, ceux-là. Non, out of reach, ceux-là, je pense pas que Jésus peut les atteindre. Pour de vrai, c'est comme ça qu'on pense. Soyez sérieux, là. Mais il n'y a personne qui est hors de portée de Jésus. Il n'y a aucune personne qui est aveuglée par sa haine du christianisme, sa haine de la religion, ses reproches à l'égard de l'histoire religieuse du Québec et puis toute la pensée contemporaine dans laquelle il est installé et tout ça. Et ça le rendrait complètement hors de portée pour Jésus. Jésus-Christ est tout puissant pour redonner la vue aux aveugles, pour leur donner le salut, pour aller sauver les rebelles. Jésus-Christ est tout-puissant parce que celui qu'il choisit, il le sauve. Et on voit ça dans le passage ici. Jésus dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il a choisi Paul et Paul s'est converti. Démêlez ça comme vous voulez dans votre théologie, mais c'est une grâce absolument extraordinaire de savoir que Jésus-Christ est tout-puissant pour sauver ceux qu'il choisit. Pour transformer radicalement une personne. Paul était un homme violent. Je comprends qu'il y avait un zèle spirituel dans toute son affaire et tout ça, mais ça se peut pas que tu sois là comme ça en train d'assister à une lapidation, puis tu termines ça puis tu dis I want more. J'en veux plus de ça. Puis là, tu s'en vas chercher des lettres pour pouvoir provoquer ces situations-là où il y a du sang qui coule, il y a des gens qui meurent. Paul était un homme violent et il y avait à quelque part quelque chose de pervers dans sa démarche où il poursuivait avec une telle haine les chrétiens. Et cet homme-là va changer complètement. Parce qu'il va poursuivre les gens qui lui font du mal avec l'amour de Christ. Et Jésus est puissant pour faire ça dans un cœur. Je lisais encore dans la biographie de Richard von Braun, vous allez finir par la lire. Hein? Je lisais encore dans sa biographie, il raconte l'histoire d'un homme qui, il était sentencé, il était condamné à mort et donc il attendait sa mise à mort et ils avaient généralement la possibilité de voir leur épouse une dernière fois, parler à leur épouse. Et je ne sais pas comment ça lui a été rapporté exactement, mais ce qui lui a été rapporté, c'est que cet homme-là, lorsqu'il a parlé avec sa femme, lui a dit « Écoute, si je suis ici, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Je n'ai aucune haine contre les gens qui se préparent à me mettre à mort et je n'ai aucune haine contre eux pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Alors je t'en supplie, je te demande de ne pas leur en vouloir, de ne pas avoir d'amertume à leur égard parce qu'ils t'ont enlevé ton bien-aimé. » Et il a commencé à lui parler d'Étienne, qui au moment de sa mort était en train de prier pour ses bourreaux. Pardonne-leur. Christ est tout puissant pour transformer un homme violent en un homme doux et pacifique, rempli d'amour. Christ est tout puissant pour protéger son Église. Parce qu'au moment de la conversion de l'apôtre Paul, un calme s'est installé pour l'Église. Il y en a d'autres persécutions qui s'en viennent. Je vous dirais qu'il y en a des pires qui arrivent. Dans les siècles qui vont venir, l'Église va être vraiment massacrée. Et pourtant, regardez, Christ est tout puissant pour protéger son Église. Et il est infiniment gracieux. Pour sauver un homme semblable à Paul, il faut que Jésus soit gracieux. Jésus aurait pu se tourner vers n'importe qui d'autre qui aurait été comme plus apte, plus adéquat. Mais Jésus est gracieux. Dans votre entourage, il n'y a pas de personnes qui sont hors de la portée de la grâce de Christ. Il n'y a pas des gens qui sont tellement odieux que Christ ne pourrait pas leur étendre sa grâce. Tu n'es pas hors de la portée de la grâce de Christ. Et si en ce moment dans ta vie, tu es en train de lutter avec des choses où tu dis, mais je suis une personne souillée. Je suis une personne indigne de Dieu. Nous sommes tous indignes de Dieu. Mais il n'y en a aucun d'entre nous qui est hors de la portée de la grâce de Christ. Jésus-Christ est infiniment gracieux. Voyez ce qu'il fait avec cet homme. C'était le persécuteur de l'Église, celui qui voulait détruire l'Église. Il va faire de lui un prince. Songez-y. Pensez à l'importance des écrits de Paul, tout ce qu'on a dit sur l'apôtre Paul en 2000 ans d'histoire. Christ a fait de lui un prince de la parole, qui prêche l'Évangile, qui a conduit des milliers d'âmes au Seigneur. Et cela à cause de la grâce infinie de Jésus. Alors vous n'êtes pas hors de la portée de la grâce de Jésus. Et si vous le croyez, bien, c'est le diable qui vous tient là, qui vous tient lié dans ce mensonge, afin que vous restiez là, prostré, incapable d'accueillir la grâce de Christ, pour ensuite marcher dans la sainteté. Mais on entre dans la sainteté parce que la grâce de Christ est accueillie dans notre cœur. Pas l'inverse. Jésus-Christ est tout-puissant et il est infiniment gracieux. Et dans ce passage, nous voyons la puissance de Jésus. Mais rappelez-vous la promesse que Jésus a dit dans Matthieu 28, lorsqu'il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y a comme un nouveau volet qui apparaît dans le passage ici. Si vous regardez avec moi au chapitre 9 encore, au verset 4, je pense que c'est la parole qui m'a le plus frappé dans tout le texte cette semaine. Et Dieu sait que ça fait de nombreuses fois que je lis ce passage-là. Jésus dit à Paul, à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Le sort de l'Église, le sort des chrétiens et le cœur de Jésus sont intimement liés. Et donc, tout le mal que Saul avait fait à l'Église de Jésus-Christ, bien que Jésus n'est plus là physiquement, Christ est monté dans la présence de son Père. Mais tout le mal qui a été fait à l'Église de Jésus-Christ, Christ l'a pris personnellement. Il a tout pris ça personnel, comme on dit au Québec. Ailleurs, dans Luc, le Seigneur Jésus dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » Jésus-Christ est tout près de nous. Il est près de nous lorsqu'on est dans la prière puis on dit « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. » Il est près de nous lorsqu'on a besoin de confesser quelque chose au Seigneur. Mais il est près de nous lorsque nous ouvrons la bouche pour lui. Et vous savez cette espèce d'expression qu'on a en chrétien où on dit « Quand tu annonces l'Évangile, de toute façon, si quelqu'un te rejette, mais c'est Jésus qui rejette. » C'est vrai! Et non seulement c'est Jésus qui le rejette, mais Jésus le vit comme un rejet. Jésus le reçoit personnellement comme une autre persécution à son égard, un autre rejet de sa personne. Voyez-vous, nous ne sommes que des messagers. Étienne, au moment où il reçoit des roches et il est mis à mort, c'est pas vraiment entre Étienne et cette foule-là que ça se passe. C'est entre Christ et cette foule de persécuteurs. Et j'ai besoin de grandir dans cette conviction-là. Lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, je suis juste un messager. Ils peuvent tirer sur le messager s'ils veulent, mais il faut qu'ils s'arrangent avec le boss qui m'a envoyé. Et je dois y aller avec cette conviction que si j'ai à souffrir pour le nom de Christ, si j'ai à être rejeté, s'il y a des amitiés qui doivent mourir, s'il y a des moments où on va se moquer de moi, je dois avoir cette conviction que le Seigneur Jésus est là avec moi dans ça et qu'il reçoit lui-même personnellement ces attaques-là. Et donc qu'il y a cette communion dans la souffrance avec Christ. Je ne suis pas seul à être rejeté là. Et mon premier réflexe devrait être à ce moment-là d'aller dans la prière et dire, « Seigneur, je suis désolé qu'ils portent atteinte à ton nom comme ça, Seigneur. Tu vois ce qu'ils font. Aie pitié d'eux. » Et apprendre en quelque sorte à détacher cet enjeu personnel qui fait que je n'ai pas la liberté de parler parce que j'ai l'impression que c'est la réputation d'Yannick que je m'en vais défendre. Ma réputation est indéfendable sinon par l'œuvre de Christ. Vous voulez savoir la vérité, là? Si on met au grand jour tout ce que Yannick Etty a fait dans sa vie, tout ce qu'il a pensé, ma réputation est indéfendable. Et je prétends que la vôtre est pareille. Mais celle de Christ, par contre, vaut la peine que j'ouvre la bouche. Parce qu'il est là avec moi, tout près de moi. Alors, comment l'Église doit répondre à ça? Qu'est-ce que Jésus s'attend de nous? Comment est-ce qu'on doit répondre à ça? Parce que voyez-vous, dans le passage, l'Église est là en trame de fond, elle est là en arrière-plan tout le long, pourtant elle agit. Nous avons un Seigneur Jésus qui est tout puissant, qui est infiniment gracieux, qui est tout près de nous. Qu'est-ce que l'Église est appelée à faire en réponse? Bien, l'Église est appelée à croire, premièrement. Croire comme Paul a cru pour devenir chrétien. J'ai entendu parler de 3 professions de foi cette semaine. Ah, mon cœur était tellement, tellement joyeux. Voilà la première chose, croire comme Paul a cru. Mais deuxièmement, croire que Dieu peut faire ça, comme Ananias a cru. Vous allez me dire, OK, c'est parce qu'il a entendu la voix du Seigneur, tu sais, c'est pas difficile à croire dans ce temps-là. Bien, on va faire un deal, OK, ensemble. Quand Jésus va vous demander d'aller vers un persécuteur de l'Église, vous lui demanderez de vous faire entendre sa voix. C'est bon? En attendant, si c'est juste de témoigner à votre voisin, on va y aller juste sur la directive de Matthieu 28. Ça devrait suffire. C'est bon? Mais il fallait qu'Ananias croie en Jésus-Christ pour se pointer là. Et il fallait que Barnabas croie dans la puissance de l'Évangile pour amener un loup, s'il n'est pas converti, c'est un loup encore, au milieu de la bergerie. Non, mais il l'amène présenté aux apôtres. Attends, il y a peut-être une Kalachnikov en dessous de sa soutane. Il fallait qu'il croie dans la puissance de l'Évangile. Et nous sommes appelés à croire, pas à reléguer ces conversions-là à une époque lointaine pour dire « Wow, dans ce temps-là, Dieu faisait probablement des choses extraordinaires. » Nous sommes appelés à croire que Dieu est vivant encore et que Christ est tout-puissant. Nous sommes appelés à ouvrir la bouche et annoncer. Annoncer sa parole, comme Paul l'a fait dès sa conversion. Il est allé avec ce qu'il savait, puis vous allez me dire, il y avait tout un bagage biblique. Oh oui, je comprends, mais il a fallu placer les affaires ensemble, là. Il a ouvert la bouche et il a commencé à annoncer l'Évangile, à proclamer l'Évangile. Et il faut être prêt avec ça à souffrir. Parce que dans le parcours de conversion, on dit qu'en moyenne, les gens vont entendre l'Évangile 7 fois avant de se convertir. Moi, j'en connais au moins 2 pour Paul, Étienne, puis Jésus. Dans le cas d'Étienne, ça a coûté cher. Mais Étienne a simplement obéi, il a ouvert la bouche, puis il a reçu des roches. Mais voyez-vous, l'Église doit être prête à souffrir et à prier pour nos ennemis. Vous savez que Jésus a exaucé la prière d'Étienne? On vient de le lire. C'est quoi la prière d'Étienne? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul se convertit. Seigneur Jésus a exaucé la prière d'Étienne. Est-ce que vous priez pour vos ennemis? Ils pourraient se convertir. Ah, peut-être que vous allez souffrir comme Étienne avant de voir ça. Peut-être que vous ne le verrez pas de votre vivant. Mais le rôle de l'Église, c'est d'être prêt à entrer dans la souffrance qu'implique de porter ce message-là. C'était clair dans la vie de Paul. Seigneur Jésus a dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'Église est appelée à croire, elle est appelée à annoncer, à porter le nom de Jésus-Christ, comme Paul l'a fait simplement, à annoncer partout autour de nous, selon nos dons, selon nos talents, selon notre appel, mais ouvrir la bouche au nom de Jésus-Christ. L'Église est appelée à souffrir, à être prête à souffrir. La semaine dernière, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes prêts à prier pour que Dieu fasse de vous des gens qui annoncent régulièrement l'Évangile? Et je vais être franc avec vous. Je vais être très franc avec vous. Vous voyez que je ne prêche pas beaucoup en regardant mes notes. C'est vous que je regarde. La semaine dernière, 50% de l'Église m'a dit non. Au moins 50. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Je vous partage une de mes requêtes de prière. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour annoncer Jésus-Christ, à prier pour vos ennemis? Parce qu'il y a des relations qui vont se briser juste parce que vous parlez de Jésus. Il y a des regards attristants qui vont vous être envoyés. Il y a des choses que vous allez perdre en ouvrant la bouche pour Jésus-Christ. Mais c'est notre appel, c'est le rôle de l'Église. Parce que Christ est venu vers nous, on veut donner cela. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ dans votre famille, auprès de vos voisins, à souffrir en donnant de votre temps pour partir comme Philippe est parti puis est allé en Samarie? Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ? Comme je partageais avec un frère cette semaine, c'est ça le message des Actes, puis il y a 28 chapitres. Donc je continue à prier pour l'Église. Le Seigneur va terminer de nous sanctifier là-dessus. Et l'Église, enfin, en terminant, est appelée à accueillir. L'Église est appelée à accueillir tous ceux qui vont venir à la connaissance de Jésus-Christ, quelle que soit leur condition. Il y a des gens qui se sont mis à louer le Seigneur, alors que l'apôtre Paul, qui avait mis à mort leurs parents, était au bout de la rangée. C'est ça, accueillir un persécuteur. C'est accueillir le gars que tu voudrais tuer. C'est accueillir la personne que tu haïs le plus au monde. Parce qu'il a fait du mal à tes proches. Mais l'Église est appelée à accueillir toutes les personnes que Christ va sauver. Et à faire de la place pour eux dans nos vies, à aller vers eux, à les accueillir, à les faire entrer au milieu de nous. Et ça a pris un Barnabas. Son surnom, c'était fils d'exhortation. Barnabas était un fils de compassion, il était là pour les gens. Et ça a pris un Barnabas qui est allé vers Saul et qui est venu et qui l'a présenté à l'ensemble des apôtres. L'Église est appelée à accueillir les gens, à aller vers eux, pour pouvoir les faire entrer dans la famille de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage-là, on assiste à une conversion extraordinaire. C'est rare que les chrétiens se convertissent comme ça. Son appel était extraordinaire et je suis tellement reconnaissant à Dieu du fait qu'il est entré dans sa vie. Mais on ne doit pas négliger le fait que la puissance de Jésus-Christ est manifestée ici. Cette puissance-là est avec nous. Christ est encore là. Il l'a promis jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Et cette puissance et cette grâce sont disponibles pour qu'on puisse annoncer l'Évangile. J'ai entendu parler de 3 professions de foi cette semaine, mais j'en veux 10 par semaine par la grâce de Dieu. C'est pas ça qu'on veut. On veut voir des âmes venir à Christ. Et Jésus est tout puissant pour aller chercher les gens les plus rebelles dans votre entourage. Et si lorsque vous déposez les yeux sur eux, dans votre radar spirituel, ils sont hors de portée pour Christ, repentez-vous, frères et sœurs. Parce que vous portez offense à Jésus-Christ en faisant ça. Je sais que c'est de l'incrédulité, moi aussi j'en souffre. Mais quelle offense à Christ de lui dire, Seigneur Jésus, celui-là il est hors de portée. Perds pas ton temps sur lui, Seigneur. On va aller vers des cas plus faciles pour toi. Et il est là avec nous lorsqu'on ouvre la bouche. Il est là à chaque instant avec nous. Je n'ai pas à prendre les offenses comme des offenses personnelles. Je suis un messager, ils s'arrangeront avec le patron. Mais il est là avec moi, il est en communion avec moi dans ma souffrance. Alors qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Croire en Jésus. Ce n'est pas ça qu'on a fait lorsqu'on s'est converti. On a cru en Jésus. On a cru qu'il pouvait nous sauver, nous. S'il t'a sauvé, crois-moi, il peut sauver pas mal de monde. Croire en Jésus. Ouvrir la bouche pour l'annoncer. Être prêt à souffrir parce qu'il va y avoir de la souffrance qui va venir avec ça. être prêt à prier pour nos ennemis parce que, qui sait, les pires pourraient se convertir et accueillir ceux que le Seigneur va sauver. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette belle conversion. Je te prie, Père, de nous faire grandir en profondeur, Seigneur. Viens affermir ces vérités dans nos cœurs pour qu'elles soient vraies quotidiennement en nous, Seigneur. Et je suis conscient, Père, je suis conscient que c'est une œuvre de ton esprit en nous, alors c'est pour ça que je prie. J'ai cette conviction que tu entends nos prières et que tu réponds à nos prières, Seigneur, parce que je l'ai vu souvent dans ma vie, je le vois de ce temps-ci, Seigneur, autour de moi et dans l'Église. Je te vois, Seigneur, répondre à ces prières. Je te le demande, Père, encore, pour une centième, pour une millième fois. Fais-nous grandir dans ces vérités, Seigneur, afin que nous soyons une Église qui annonce Jésus-Christ partout autour de nous, remplie de cette conviction que tu es tout-puissant pour sauver les plus rebelles. Et qu'aucun d'entre eux n'est hors de portée de ta grâce, Seigneur. Et Seigneur Jésus, nous voulons te demander de nous précéder dans cette œuvre, de nous appuyer dans cette œuvre, Seigneur, d'être celui qui vient faire la différence par la puissance de ton Esprit Saint. Attire-les à toi, Seigneur, comme tu l'as fait pour Paul. Viens, Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas convertir des gens. Merci, Seigneur Jésus, d'être entré dans ma vie personnellement et dans la vie de chacun ici qui sont chrétiens. Et je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous et ceux de cette qui fréquentent cette Église et ceux parmi nos enfants qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ils ont entendu parler de toi comme Paul avait entendu parler de toi, mais tu relèves davantage du conte de fées que d'une communion intime et spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas reçu, Seigneur, la grâce d'être pardonnés de leurs péchés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint comme Paul l'a reçu. Oh, je te prie, Seigneur, étends ta bonne main et viens sauver chaque personne dans cette salle. Qu'aucun, Seigneur, ne se berne lui-même en s'imaginant être chrétien parce qu'il est religieux. Mais au contraire, Seigneur, que chacun soit saisi par ta grâce. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.
On va se lever ensemble, on va reprendre ce chant que, à la demande spéciale de notre pasteur, on va chanter ce chant en anglais, mais en même temps, vous avez les paroles en français que vous pouvez méditer si vous comprenez pas parfaitement l'anglais, mais ce chant nous permet de nous rappeler combien la puissance de l'œuvre de Christ, comment l'œuvre de Christ est puissante dans nos vies, puis on veut le chanter à sa gloire.
Darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful man, torn and beaten down, nailed to a cross of wood. 'Tis the cross, Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. To see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin, every bitter thought, every evil deed, crowning your blood. blood-stained brow is the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath we stand forgiven at the cross. The daylight flees, now the ground beneath quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, dead are raised to life, finished the victory. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath, we stand forgiven at the cross. Oh, to see my name crushed to death, life is mine to live. Once through your selfless love, is the power of the cross. Son of God, slain for forgiven at the cross. We stand forgiven at the cross.
Oui, Seigneur, parce que l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix, nous pouvons nous tenir debout et entièrement pardonner devant notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Fais de nous maintenant des témoins qui n'ont pas honte de toi, Seigneur Jésus. Sachant le sacrifice que tu as porté, Seigneur, fais de nous des témoins passionnés pour toi, Seigneur, et que d'autres puissent venir à la connaissance de Christ, touchés par la puissance de la croix. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.